Europe 1. Europe 1, Culture Média.
9h30, 11h.
Jean-Pierre Foucault.
Bonjour à tous.
Bonjour Jean-Pierre.
Je suis dans un terrain hostile. Je voulais ceux qui voient l'image
d'Europe.fr
voient la tenue de notre ami Jean-Luc Lemoine qui arbore un très très beau t-shirt avec une marque de compagnie aérienne.
Et qu'est-ce que il y a une tour Eiffel, mais je vois
pas. Il y a
pas
une tour Eiffel. Et ça c'est le logo de la victoire.
D'accord.
Il manque une petite étoile encore.
Il manque une petite étoile, celle que nous avons nous à Marseille. Notre invité média, c'est David Ginola. Tiens, ça tombe bien. On le retrouve ce soir dans l'émission au micro, aux côtés d'Hervé Matou et Laure Boulot sur Canal. Dans la deuxième partie, on sera avec Inès Rey, qui viendra, entre autres, nous parler de son spectacle Hors Normes, qui sera sur Amazon, Amazon Prime dès demain, bien sûr. Et évidemment, nous reviendrons sur son parcours, dont on parle quelque peu dans Danse avec les stars.
Elle est première du classement, Inès Rey, hein, dans Danse avec les stars. Ouais.
N'hésitez pas à réagir à cette émission avec le hashtag Europe 1. On est ensemble jusqu'à 11h.
9h30, 11h. Europe 1, Culture Média, Jean-Pierre Foucault.
Eh bien oui, comme chaque jour, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On commence... On commence cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Alors Jean-Luc, ce matin, nous recevons David Ginola. J'espère que vous êtes content.
Mais oui, mais bien sûr, je suis content. Enfin, la rencontre au sommet qu'on attendait tous. Ouais. El Magnifico, qui rencontre El Magnifuco. Hein, je suis content, même si je vous casse pas que préparer hier une rubrique sur David Ginola, un soir de Barcelone PSG, j'étais fébrile. Hein.
Ouais,
ça m'a obligé à gérer les deux cas de figure selon le résultat du match. En cas d'élimination, j'avais proposé une musique de circonstance. Voilà. Ça, c'était dans le pire des cas. Ça me paraissait cohérent. Mais Jean-Pierre m'a dit « Ah non, 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 si Paris se fait sortir, on met ça. » C'est ça. Si Jean-Pierre, arrêtons de faire les hypocrites, une élimination pour vous, ça aurait été comme une victoire à l'Euromillion. Hein. Eh ben, dommage. Alors en plus, recevoir aujourd'hui une légende du PSG, ça va être très compliqué pour vous. Hein. La preuve, vendredi, dans Touche pas à mon poste, vous annonciez vos invités à venir dans Culture Média.
David Ginola, bien qu'il soit parisien, je le retrouve dans l'émission.
Eh ben, cachez votre joie, Jean-Pierre. David Ginola, qui restera à jamais le parisien avec le plus gros accent du sud de l'histoire du football. Hein. Vous imaginez pas les souvenirs pour moi, David. J'étais au parc pour le premier match de David avec le maillot du PSG, il arrivait de Brest. C'est des souvenirs, vraiment. Vous m'avez fait rêver. Et je vous ai écouté depuis, je vous ai écouté même chez Léa Salamé pour raconter ce que vous avez découvert à la fin de votre vie de footballeur.
Tous les interdits d'avant ne le sont plus. Donc on fait, si on a envie de boire un verre de rosé, on va boire un verre de rosé, si on a envie de faire, on fait des choses qu'on ne faisait pas avant.
Alors c'est gentil David, mais il fallait le dire avant, parce que ça marche que dans un sens cette histoire. Julien Pichenet et moi, on a commencé par le rosé, on a voulu se lancer dans le foot après, on n'a jamais réussi.
Ça marche pas. Est-ce que vous avez regardé la nouvelle émission de David Le Micro?
Ah bah obligé, très bonne programmation en plus. Première émission après PSG Barcelone la semaine dernière. Moi, après la défaite, j'étais sur mon canapé, en PLS, limite coma, donc de toute façon, je pouvais plus bouger. Super mission et super concept.
Moi, je voudrais que vous alliez nous détecter, nous dénicher une nouvelle voie pour le foot sur Canal+.
Voilà, c'est The Voice, mais pour The Foot. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Les gagnants, enfin le gagnant deviendra commentateur sur une des chaînes Canal, les autres finiront comme Alarme, chez Verisur.
Benzema Allons
C'est la seule émission où tu finis avec des acouphènes. Alors, les trois jurés mandatés, c'est Laure Boulot, Hervé Matou et David. Et d'après Laure, c'est un jury très complémentaire pour une bonne raison.
Il faut être visionnaire, les gars. On est trois générations différentes, donc je pense qu'on n'attend pas les mêmes choses.
Alors, je vous laisse vous débrouiller avec Laure, mais vous êtes né en 67, Hervé en 66. Donc quand il dit trois générations, il y en a forcément un de vous deux qui apprend pour son grand-père. Je sais pas qui. Alors pour être sélectionné, les candidats héritent d'un match au hasard à commenter. Et là, c'est toi et ta chance.
Sur quel match tu es tombé?
Je suis tombé sur le Ludogorets Arsenal.
Super.
Ah ouais, c'est toi qui a tiré Ludogorets.
Exactement.
Oui, Ludogorets, c'est l'équivalent de la boule noire d'un Motus. Parce que au micro, c'est pas que du commentaire, c'est aussi de la culture.
Est-ce que tu sais quelle ville est représentée par ce club?
Je crois que c'est Sofia.
Ah non.
C'est pas Sofia?
Non, non. Non, non. La ville, c'est Razgrad. La géographie en football, c'est extrêmement importante.
Lui, c'était vraiment pas le chouchou. Hein. Il se tape Ludo Goretz. Razgrad. Pendant que le fils du patron a eu, d'après toi, c'est quelle ville, le Real Madrid, hein? Non, franchement, ça se voit qu'il y a du favoritisme, David.
Complètement.
En plus, David, c'est monsieur question. T'as pas intérêt à arriver les mains dans les poches parce que sinon, il te piège. Un terreau flash éclair.
Dortmund, ils ont gagné la Ligue des Champions quelle année? Deux questions avant que tu commences.
Ouais.
Chelsea, combien de Ligue des Champions?
Deux. 2012-2021.
Barcelone?
Cinq.
Ah oui, ça rigole pas. Alors David, comme vous êtes joueur, Sochaux, combien de Ligue des Champions?
Zéro.
Oh, oui, faut que j'arrête de faire écrire mes questions par Anissa, c'est trop simple. Commenter devant Laure, Hervé et David, c'est pas simple, surtout si on veut faire des phrases compliquées.
Et regardez, merci Zinedine Zidane, son ballon d'or 98, qui vient applaudir son ballon d'or... quadruple ballon d'or, pardon.
Bon, lui, il a touché le commentaire, mais dans le désordre. En tout cas, super émission, pleine d'espoir, puisque tu te rends compte que tu peux te qualifier en ayant une voix de marteau-piqueur, comme Steven.
Lionel Messi, à l'entrée de la surface pour Iniesta.
Allez, bisous à la suite.
Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoyne. On vous retrouve demain, évidemment. Et quand on veut en replay sur Europe1.fr. Et puis, avec David, nous parlerons bien sûr de Au Micro dans un instant.
Et Jean-Luc Lemoyne, qu'on peut voir. Allez le voir. C'est un conseil d'amis. Allez l'applaudir samedi pour son spectacle, nouveau spectacle Liquidation. Et il sera dans la très belle ville de Clermont-Ferrand à la Comédie des Volcans. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. La suite de Culture Média avec Jean-Pierre Foucault et David Ginola. À tout de suite.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Jean-Pierre Foucault et votre invité ce matin, Jean-Pierre.
Qui est un de nos plus grands footballeurs français, il faut bien le reconnaître, hein, même s'il a passé 3 ans au PSG. Mais enfin bon, vous êtes né à Gassin dans le Var.
Même si je n'ai pas porté le maillot que vous auriez aimé.
C'est ça, et je le regrette. Bonjour David.
Bonjour
David,
Jean-Pierre, bonjour Anissa, bonjour
Julien. Bonjour David.
Un petit mot évidemment sur la victoire éclatante du PSG face au Barça hier. Ousmane Dembélé a sorti un grand match face à ses anciens partenaires, il faut bien le reconnaître, et Kylian Mbappé semble avoir enfin retrouvé son efficacité légendaire. Vous les voyez aller jusqu'au bout, franchement?
J'irai pas jusque là, je vais essayer de savourer ce qui s'est passé hier soir, parce que il faut pas minimiser cette victoire-là. Elle est pas juste symbolique, hein, c'est plus que ça. Je crois qu'on a souvent critiqué le Paris Saint-Germain à maintes reprises parce que justement, ils arrivaient pas à passer les huitièmes, les quarts. Et là, hier soir, ils ont montré qu'ils étaient capables de faire quelque chose de fabuleux, de représenter le football français de la meilleure des façons. Et moi, je me positionne comme ça. Je suis fier qu'une équipe française ait pu battre une équipe légendaire comme le Barça chez elle par 4 buts. Marquer 4 buts là-bas, ça a été quelque chose de fabuleux et un très beau moment à vivre.
Donc aujourd'hui, 17 avril 2024, c'est le jour de l'enterrement du mot remontada. C'est ça qu'on peut dire.
Écoutez, moi hier soir, j'ai dit que ça suffit d'avoir des termes qui sont maintenant galvaudés. On parlait de remontada parce que bien évidemment,
il y en a eu
plusieurs, mais c'était souvent par rapport aux équipes espagnoles qui nous battaient. Ouais. Et là aujourd'hui, faisons esprit, faisons corps avec notre pays, le patriotisme, la France, et de dire que c'est une remontée et plus une remontada.
Et à tous les deux, on partage la lune de l'équipe, puisqu'il parle de remontée et il parle de sacrée soirée. Donc heureusement qu'on est là. Hein.
C'est une sacrée soirée.
Et c'est une belle remontée.
Mais c'est une belle remontée parce que c'était compliqué au départ. Après le 3-2 du match aller, on s'est dit waouh, allez là-bas, le Barça, ils sont bien, ils jouent chez eux. Et puis finalement, on se rend compte que avec de la volonté, on est capable de déplacer les montagnes.
Ouais. David, il y a bien une vie après le foot, puisqu'on vous retrouve désormais depuis le 10 avril dans Au Micro, la grande compète de Canal Plus pour dénicher une des nouvelles voies du sport. Vous avez reçu, ça c'est incroyable, plus de 10 000 candidatures. Vous attendiez à autant de demandes ou pas?
C'est une question. 10 000, c'est vrai, ça paraît beaucoup, mais pour un nouveau concept, oui, effectivement, on trouve ça intéressant parce qu'on s'est dit, tiens, déjà, il y a des personnes qui adhèrent et qui veulent participer à cette émission, parce que l'idée est géniale, c'est quelque chose qui ne s'était jamais fait auparavant. Et c'est vrai qu'on avait quand même beaucoup de questions en suspens qui se sont... on a eu très vite les réponses et on s'est régalé à faire ça.
Mais que 2% de femmes, en revanche. Hein.
Oui, que 2% de femmes, c'est ce qui est malheureux. Alors j'espère qu'il y aura d'autres éditions sur les prochaines années et qu'il y aura de plus en plus de femmes parce que je pense qu'elles apportent une valeur ajoutée incontestable au niveau de la voix, au niveau du commentaire et surtout au niveau de l'approche des choses.
Exactement.
C'est, je trouve, moi, j'ai toujours aimé justement travailler avec des femmes parce que des fois elles me surprennent dans le sens où tiens, j'avais pas pensé à ça.
Ah ben
et
voilà.
C'est toujours très bien d'avoir un contresens ou quelqu'un qui va dans votre sens ou pas.
On trouve des profils complètement différents. Il y a des banquiers. Hier soir, je vous ai regardé, oui. Des banquiers, des profs.
Ça vous a marqué.
Des footballeuses. Oui. Ça montre vraiment que le foot est le sport qui touche tout. Les milieux et absolument toutes les classes sociales.
C'est le sport populaire par excellence. C'est celui qui nous réunit. On se rappelle de 98, tout le monde dans la rue. Il n'y avait plus de questions de couleur, de religion, d'appartenance sociale à telle ou telle casse. On était tous unis derrière une équipe de football et derrière une victoire. Donc, je pense qu'à un moment donné, le football réunit les gens. Ouais. Et il faut continuer à cultiver cette idée-là.
Alors, le métier de commentateur donne l'illusion de la facilité. Or, c'est extrêmement compliqué de commenter un match de foot.
Alors, il faut dissocier, en fait, le commentateur, qui est journaliste de formation et qui a travaillé très dur pour en arriver là, qui est associé généralement à un consultant, ex-joueur de football, qui, lui, donc, vient s'adapter aux commentaires de match et donner son analyse. Mais le commentateur, on néglige, en fait, quand on passe au commentateur, à tout le travail qu'il y a en amont sur la préparation des matchs, selon où on se trouve, la géographie, le contexte politique du pays. En fait, il faut prendre en considération tout ce qu'il y a autour du match pour pouvoir fournir aux téléspectateurs des informations au fil du match. Quand il y a des temps morts, il faut savoir meubler, monter l'excitation, le rythme, la voix. En fait, il y a tellement de choses et de paramètres que finalement, quand on écoute un match, j'espère en fait que les gens qui vont écouter les matchs à la télé et qui vont regarder le match mais avec les commentaires vont maintenant se poser la question, c'est ah ouais mais maintenant je faisais pas attention à ça.
Exactement.
Maintenant je vais faire attention.
Exactement.
À ça.
Mais dans toutes les disciplines, on voit que c'est pas facile du tout. Question Twitter, Anissa.
Oui, il y a une question de Marco sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Il demande, est-ce qu'un commentateur doit être neutre ou est-ce qu'il peut aussi montrer qu'il est supporter de l'une des deux équipes?
Alors c'est une très bonne question et c'est quelque chose qui est revenu assez souvent. Je pense qu'il y a une question de neutralité qui est très importante, surtout quand on parle d'équipe de club. C'est-à-dire, par exemple, on a un PSG Marseille, on ne peut pas être pro-marseillais, n'est-ce pas Jean-Pierre, ou pro-parisien. Par contre, quand c'est l'équipe nationale qui joue, par exemple l'équipe
PSG
de France...
PSG Barça ou...
Alors, tout ce qui est international, en fait, on peut garder, mais rester quand même sur la réserve parce que on sait qu'il y a des gens qui nous regardent à la télé et que quand on va faire des commentaires, il y a peut-être des Espagnols en France, de l'immigration, des Portugais si on joue contre Lisbonne ou Porto. Voilà, toutes ces choses-là qui font que il faut tout prendre en considération pour ne pas heurter la sensibilité du téléspectateur.
On va y revenir, David Ginola et Jury, dans la série Au micro sur Canal+, tous les mercredis à 23h15, aux côtés de Laure Boulot et Hervé Matou, et avec Redouane Bougueraba, il faut bien un Marseillais dans un film.
un vrai
aux côtés des concurrents. Restez avec nous, David, pour commenter l'actu des médias.
Et oui, l'actu des médias, c'est dans un instant avec le journal des médias de Julien Pichenet. Et ce matin, on va parler, entre autres, de Brigitte Macron. Et oui, elle fait l'objet d'une série, je ne sais pas si vous le saviez, mais Julien Pichenet va tout nous dire dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Jean-Pierre Foucault et votre invité ce matin, Jean-Pierre, vous recevez David Ginola. Et à 9h50 sur Europe 1, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet.
Julien, commence avec les audiences d'hier. Alors, Koh-Lanta a gagné ou pas?
On a eu des petits scores hier pour les primes. Il faut dire qu'il y avait le foot sur Canal Plus Sport. On n'a pas encore les audiences d'ailleurs du foot, mais on peut imaginer qu'il y avait quand même pas mal de monde devant le match entre Paris et Barcelone. Face à cette grosse concurrence, c'est la série de France 3 face à face qui a fini en tête, Jean-Pierre, avec 3 300 000 téléspectateurs. Koh-Lanta sur TF1 était juste en dessous de la barre des 3 millions en légère baisse. Et les derniers secrets de l'humanité de Jacques Malaterre sur France 2, on en parlait hier dans ce journal des médias, a été suivi par 2 millions de curieux. On est loin évidemment du succès colossal de l'Odyssée de l'espèce du même réalisateur en 2003. À l'époque, il y avait 8 700 000 téléspectateurs, mais aujourd'hui, il y a le replay. Et puis un petit mot de The Song, le nouveau jeu d'Energie 12 présenté par Kinvey tous les jours à 18h. La première avait été suivie par 92 000 personnes lundi. Hier, on était en grosse baisse, 66 000 téléspectateurs seulement.
Europe 1, le journal des médias.
Alors tout d'abord, on a appris que la première dame de France, Brigitte Macron, allait faire l'objet d'une série. De quoi s'agit-il, Julien ?
Alors c'est Gaumont qui prépare cette série événement qui va s'appeler Brigitte, une femme libre. Il y aura 6 épisodes de 45 minutes. 6 épisodes qui retraceront, je cite les auteurs Bénédicte Charles et Olivier Pouponneau, la trajectoire romanesque de l'épouse du président. Ils ont signalé qu'il s'agissait d'un pari énorme. Bon, on va pas les contredire. On ne sait pas encore qui diffusera la série. On ne sait pas non plus qui jouera le rôle de Brigitte Macron. On suivra évidemment tout ça de près.
Également dans l'actu des médias, le magazine Marianne pourrait changer de main.
Oui, alors que l'hebdomadaire vient tout juste de changer de look et de formule. Le média d'investigation La Lettre a indiqué que la ligne éditoriale de la directrice de la rédaction, Natacha Polony, ne conviendrait plus au propriétaire Daniel Kretinsky, qui détient le titre depuis 2018. Le milliardaire tchèque n'aurait pas aimé, par exemple, les dernières attaques de Marianne contre le président et son premier ministre. Qualifié en couverture, c'était début avril, de tocard de l'économie. Selon La Lettre, l'équipe de Daniel Kretinsky serait actuellement en train de discuter avec d'éventuels repreneurs.
Une info sport maintenant avec une nouvelle recrue pour M6 en vue du prochain Euro qui commencera le 14 juin.
Oui, Smaïl,
le 18, c'est autre chose.
Smaïl, ouais, c'est l'appel du 18 juin et l'Euro commence le 14 juein. Smaïl Bouabdella, ancienne figure de beIN Sport qui commente actuellement les matchs de la Ligue 1 sur Prime Video, sera sur M6 pour l'Euro. Alors il commentera pas les matchs, hein. C'est Xavier Domergue et Christophe Dugarry qui s'en chargeront. Il animera le magazine 100% Euro avant et après les rencontres. Je rappelle pour ceux qui n'ont rien suivi ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'M6 diffusera 13 matchs de cet Euro 2024, dont La finale,
bien sûr. Nous sommes à 100 jours du coup d'envoi des JO de Paris. À cette occasion, le journal d'équipe propose un numéro exceptionnel.
Un gros numéro. Si vous allez acheter l'équipe aujourd'hui, c'est chez votre marchand de journaux. Prenez un caddie parce que le journal est énorme. 100 pages comme 100 jours, évidemment. Ouais. Alors, depuis sa création en 46, jamais le journal n'avait été aussi gros. Jamais la pagination de l'équipe n'avait été aussi volumineuse. Ça fait des mois que près d'une centaine de journalistes travaillent sur ce numéro qui présente les jeux à venir et qui revient également sur les grandes dates du passé, notamment sur les Jeux de 1924 qui avaient eu lieu à Paris. Lionel Dangoumeau, directeur de la rédaction du journal, présente ce gros numéro pour Europe 1.
C'est vraiment un numéro à garder qui permet aussi de se replonger dans les grands moments de l'histoire olympique, alors qu'on essaye de revisiter en racontant des histoires qui n'ont pas déjà été racontées. Mais c'est un numéro qu'on peut garder jusqu'au 26 juillet et pour te remettre à niveau, on va dire, sur les grands moments de ces JO et pour être prêt à vivre ceux de Paris 2024 en ayant connaissance de la trajectoire qui nous a amenés jusqu'à là.
Bon, David Ginola, c'est quand même le PSG hein, qui est en une de l'équipe aujourd'hui, mais avec un titre olympique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la une de l'équipe aujourd'hui.
On en a parlé tout à l'heure. Ouais.
Alors, non, ça c'est dans le journal, ouais. Hein, c'est pas la une, ouais. Sacrée soirée. C'est dans
et
le journal.
Si on dit que c'est la une, c'est la une. Ah, voilà, c'est fini.
Porteur de flamme. Voilà, vous l'avez, votre sacrée soirée. Effectivement, alors, le titre qui fait le compte-rendu du match, c'est sacrée soirée.
Toujours concernant les JO, il y aura cet été une soirée Fort Boyard spéciale Jeux Olympiques.
Ouais. Voilà, un autre générique célèbre. Un Fort Boyard spécial JO avec des athlètes, effectivement, c'est ce qui attend les fans du programme cet été. Précision donnée par la chef des Jeux et des divertissements de France Télé lors d'un entretien à Média Plus. Dans ce même entretien, Alexandra Redamiel a annoncé que le grand concours des régions sur France 3 se déclinerait prochainement autour des chorales. Il y aura également un grand concert des régions pour promouvoir le patrimoine culturel régional sur France 3. On ne sait pas toutefois si c'est Cyril Ferraud qui sera à la présentation.
Bon, on pourra lui demander directement parce que Cyril Ferraud sera votre invité demain matin, Jean-Pierre, dans Culture Média dès 9h30.
On termine avec la nouvelle idée d'Elon Musk. Il propose de faire payer les nouveaux utilisateurs de son réseau social X.
Ouais, qui est prêt à payer pour pouvoir écrire des messages ?
Non, merci.
Non, David.
Non. Ah non, pas du tout.
Eh bien, le patron de l'ancien Twitter suggère que les nouveaux utilisateurs nouveaux doivent s'acquitter d'une petite somme pour pouvoir le faire, et ce pendant 3 mois. Pour Elon Musk, c'est la seule solution pour lutter contre les bots, ces comptes automatisés et malveillants. En résumé, les nouveaux utilisateurs devront payer pendant 3 mois. Après, ils pourront écrire gratuitement. Bon, on ne connaît pas encore le montant des frais ni les pays concernés. On ne sait pas non plus quand est-ce que cette mesure sera mise en place, mesure qui risque fort d'être impopulaire.
Merci beaucoup, mon cher Julien, pour ce journal des médias. Retour à cette compétition avec vous sur Canal.
David, on a le sentiment que vous êtes peut-être le juré le plus sévère. Je me trompe ou pas? Non?
Ah non, pas du tout. Ah. Non, je pense pas. Je pense que c'est important aussi d'être juste. Moi, j'essaye d'être juste dans ce que j'entends, dans ma façon à moi de concevoir. Des fois, je ferme les yeux, je me mets comme un téléspectateur lambda qui est à la maison en train de passionner de foot, qui veut écouter quelque chose. Est-ce que la voix est bonne? Est-ce que le timbre est bon? Est-ce que le rythme est bon? Est-ce que ce que j'entends colle avec ce que je peux voir aussi? Donc non, sévère, non. Mais je pense que c'est important parce qu'il n'en reste qu'un à l'arrivée. Donc, celui qui pour nous et pour surtout les téléspectateurs qui vont regarder et qui regardent l'émission, c'est de se dire, mais voilà, ils sont justes et celui qui a gagné, ben, c'est celui qui méritait.
Anissa,
l'émission se déroule dans plusieurs villes. Il y a des castings à Paris,
on
à Marseille, voilà, c'est ça.
Lens, Paris, Marseille.
Est-ce qu'il y a une ville où vous avez senti que ça transpirait plus le foot? Est-ce
vous voulez me faire dire quoi?
Qu'est-ce que vous voulez me faire dire?
Non, mais voilà, une ville avec une étoile, avec
non,
une bonne mère.
Je veux rien vous faire dire, mais
avec un port.
Vous avez senti parmi les candidats une ville où qui transpirait un peu plus le foot?
Alors,
Lens est une ville aussi qui
transpire. Oui, je vais être honnête avec vous. À Lens, il n'y avait pas que des Lensois. À Paris, il n'y avait pas que des Parisiens. Et à Marseille, il n'y avait pas que des Marseillais, des Massilia. Donc on a ratissé large. C'est très éclectique. Ce qui est certain, c'est que tous ceux qui sont venus, qui ont tapé à la porte et qui ont été sélectionnés, tous les concurrents pour venir participer aux auditions, elles ont été vraiment top. Elles ont joué le jeu et elles se sont données vraiment à fond pour changer de vie, parce que ça peut être un changement de vie.
Culture Média continue après les infos de 10h. Jean-Pierre, David, Ginola, restez avec nous parce que dans un instant nous allons dresser votre portrait sonore.
Juste un petit truc, une voix. On en a une ici avec Jean-Pierre Foucault.
On a une voix mythique,
ben voilà,
bien
sûr. On est en train de chercher quelque chose comme
merci
ça.
Merci beaucoup.
Bah, vous voulez pas vous inscrire, Jean-Pierre?
Si, si,
pour
bien
participer
sûr.
Au micro.
Il serait très bon.
Oh, oui, certainement pas.
Et puis vous le savez, tiens, notez-le tous les soirs sur Europe 1, la Libre Antenne vous ouvre ses portes, vous pouvez prendre la parole, vous confier en toute bienveillance. Du lundi au jeudi, c'est l'oreille d'Olivier Delacroix qui vous écoute, et du vendredi au dimanche, celle de Valérie Dermont. Pour participer à la Libre Antenne, c'est tous les soirs après le journal de 22h et jusqu'à 1h du matin. Il vous suffit d'appeler le 01 80 20 39 21.
Europe 1, Culture Média.
9h30, 11h.
Jean-Pierre Foucault.
Merci d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons Inès Reg, mais on est toujours avec David Janola qui vient nous parler de Au Micro. Au Micro, à ne pas louper, c'est ce soir à 23h15 sur Canal+. On va dresser votre portrait sonore, David. Ouais.
Votre portrait sonore.
Ouais, le portrait sonore.
Des petits sons qui vous rappelleront, je l'espère, de grands souvenirs. Voici le premier, écoutez bien. Comment?
C'est un quiz?
Oui.
Vous savez qui chante?
Ah, vous savez qui chante? Eh bien, le chanteur en question, c'est Johan Cruyff. Incroyable, non?
Waouh! Ah non, je ne connaissais pas, mais c'est un Hollandais en plus.
C'était un peu votre modèle, Cruyff, ou pas, non?
C'était le seul poster que j'avais dans ma chambre.
C'est vrai.
Quand j'avais 8-9 ans. Et des années après, quand il a dit en 99. Aujourd'hui, je pense que le meilleur joueur au monde, c'est David Ginola.
Oh, c'est incroyable.
Wow.
Je pense que, voilà, avec tout ce qui a été dit,
sûr, ouais.
En négatif, en positif, je crois que je ne retiendrai que cette phrase-là.
Ouais. Il est meilleur, était meilleur joueur que chanteur, hein, je pense.
Oui, mais de toute façon, les footballeurs, très bons chanteurs, je ne connais pas beaucoup. Hein.
Non, il n'y en a pas beaucoup.
Deuxième extrait, écoutez. Cette musique vous rappelle quelque chose?
Phil Collins?
Oui, bien sûr. C'est Who Said I Would de Phil Collins. Et c'est sur cette musique que les joueurs du PSG entrent sur le terrain depuis 1992. Vous avez notamment été champion de France avec cette équipe. Quel souvenir en gardez-vous? Vous avez, si on le sait, en Angleterre. Il y a une différence majeure entre la façon d'être footballeur chez nous qu'outre Channel?
Non, sur le métier, on le fait de la même manière.
Ouais.
Ce qui est différent, c'est, je pense que l'approche avec les supporters, la passion,
ça,
la passion,
public, ouais.
La dévotion. Alors ça a changé depuis des années. En France, on a pris des modèles, et comme l'Angleterre est devenue un modèle, par rapport à ça. Avant, on ne voyait pas de maillots dans les rues de France, des maillots de clubs de foot. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé, alors qu'en Angleterre, ça a toujours été le cas. On est supporters avant tout de père, grand-père, père et fils. Et ça c'est une culture qui est complètement à part. Ils ont inventé le football, ils ont eu des problèmes, ils ont été bannis des compétitions européennes, ils sont revenus et maintenant, c'est une des franchises sportives les plus importantes au monde.
On parlait d'Angleterre, j'ai un message pour vous, David Ginola. Un message d'Hervé qui nous écoute.
Hervé Matou ?
Non, un autre Hervé qui est aussi auvergnat. Il dit son but avec Tottenham contre Barnsley en 99 a enflammé toute la première ligue.
Je me rappelle parce qu'on était 0-0, il restait 2 minutes et puis tout le monde me regardait en disant « David, s'il te plaît, on ne revient pas jouer là, il faut marquer. » C'était en coupe. Et ben j'ai pris le ballon au milieu de terrain, j'ai dribblé 5 joueurs et je suis allé marquer 0. Merci, au revoir. On est rentré à Londres.
Merci, au revoir. Voilà, c'est tout.
Non, non, mais on est rentré à Londres parce que c'est pas évident quoi. C'était à une époque aussi où qu'en cas de match nul, les matchs étaient à rejouer, donc il y avait pas de séance de penalty en Angleterre, ce qui donnait aussi un certain charme.
On continue le portrait musical avec ce 3e extrait. I've got a signal. Alors, je vais vous aider.
Non, mais c'est un film.
C'est le film, ouais.
C'est un film.
Opération Matchbox. Un film de Colin Tick dans lequel vous avez joué.
Uh-huh.
Et oui, on le sait un peu moins, on ne s'en souvient plus.
Je joue le rôle d'un sniper allemand.
Oui, c'est ça. Vous avez suivi une formation d'acteur à la Royal Academy à Londres, c'est vrai?
Oui, à Rada, oui. Oui, pendant un an.
Pourquoi vous êtes engagé dans cette voie?
Parce que j'avais des propositions à l'époque, je recevais des scripts via mon agent et que il fallait quand même avoir un minimum de je dirais pas de pratique parce qu'on en avait, j'en avais pas vraiment, mais voilà, apprendre un petit peu les choses, voir un petit peu comment ça se passe.
Ouais. Mais il y a des mauvaises gens qui disent que parfois les footballeurs jouent des comédies, notamment dans
les simulations.
Souvent.
Mais vous jouez bien. Tout le monde parle.
Non, mais c'est le Marseillais qui parle.
C'est ça.
C'est le Marseillais. Mais souvent, quand je rencontre des supporters de Marseille, ils viennent me voir et ils me regardent et me disent « Ah, David, dommage que tu n'aies jamais joué à l'OM. » Et je les regarde, je dis « Mais je te reconnais, toi. C'est toi qui m'insultais dans les tribunes. » Ils me regardent « Non, non, je te jure, c'est pas moi. »
Il en a été question à un moment donné. C'est-à-dire que quand vous êtes à Brest, effectivement, après,
bravo,
vous partez au PSG.
Il a été question
que vous alliez à l'OM.
C'est pas question, c'était fait.
Ah, c'était fait.
Apparemment, j'ai lu un livre récemment où Jean-Pierre Bernès doit avoir un contrat signé quelque part dans un coffre. C'est assez intéressant parce que quand j'ai lu l'article et je l'ai revu au stade la dernière fois, je lui ai dit « Mais tu as un contrat de moi signé à l'Olympique de Marseille. »
Il faut l'honorer.
Hein? Mais de toute façon, je pense qu'en tant que natif du Sud, mon père Ginola, italien, son père est arrivé d'Italie, ils sont arrivés. J'ai retrouvé ça dans mon arbre généalogique, du côté de mon père, tout le monde est marseillais. Alors je vais pas faire... Moi j'ai travaillé à Paris, j'ai adoré Paris, je suis toujours supporter du Paris Saint-Germain et je serai un défenseur du Paris Saint-Germain. Mais je suis comme je suis défenseur du football français.
Bravo.
Donc si demain l'Olympique de Marseille bat Benfica, je serai content aussi.
Eh bien, c'est ce qui
contrairement
sera
à vous. Contrairement à vous.
Dernier extrait qui devrait vous faire plaisir.
Ok guys, est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo où je vous trouve des pépites vintage? Et c'est pas n'importe quelle vidéo, car aujourd'hui c'est le début des VCR Days, donc il y a jusqu'à 70% off sur plein d'articles. Bref, je vous montre.
Vous la reconnaissez quand même.
C'est Carla.
Incroyable.
C'est Carla.
Et
Carla, c'est votre fille, elle est mannequin, elle est, comme l'on dit maintenant, influenceuse. Quel regard vous portez sur son parcours? Elle vous demande encore des conseils?
Écoutez, ma fille, Carla, qui va avoir 30 ans cette année, a eu son bac, passé en Angleterre à Londres, a fait 4 ans d'université, a été graduée à l'université d'European Business School, a passé l'examen à Buenos Aires en espagnol, a passé l'examen en italien à Milan. Et aujourd'hui est influenceuse qui marche super bien. Je suis très heureux pour elle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous partez dans une direction, vous voulez que vos enfants fassent des études et puis derrière, il faut influenceuse parce que c'est l'air du temps, parce que c'est aujourd'hui ce qui marche. Elle a du succès et j'en suis très content.
Papa content, papa heureux, papa fier, c'est bien. Dernier extrait.
sur un passeau d'homme.
Oh là là.
David Ginola et sa partenaire.
Ça, c'est un sacré souvenir.
On est dans 2011, vous participez à la première saison de Danse avec les Stars. Ouais. Ça aussi, c'est surprenant. Vous avez terminé troisième, donc c'est très honorable.
J'ai rempli mon contrat personnel, c'est-à-dire que pour moi, l'objectif, c'était bien évidemment d'aller le plus loin possible. J'ai fait la finale avec Matt Pokora et Sofia Essaidi, et ça a été une expérience de malade. J'ai perdu 10 kilos, sur 8 semaines, on a fait des trucs de fou. Je pensais pas que la danse de salon était à ce point... C'est un vrai sport et je rends hommage à tous les danseurs qui participent toujours à cette émission parce que c'est incroyable. On se fait des idées sur quelque chose et à l'arrivée, quand on touche du doigt vraiment ce que c'est, on
c'est
se dit
waouh. C'est compliqué qu'il y paraît.
Ah mais c'est super compliqué. Faire une chorégraphie, apprendre une chorégraphie d'une minute trente en 5 jours et la donner en direct live le samedi soir, c'est un truc de fou.
C'est exactement comme le métier de commentateur pour au micro.
C'est
quoi. On croit que c'est
exactement.
Facile. Et
c'est pareil.
On en parlera tout à l'heure avec Inès Reg, justement, de Danser avec les Stars. David, merci beaucoup.
Merci à vous, Jean-Pierre. C'est un plaisir.
On se voit, Carrie Drouet. Je rappelle que vous êtes juré dans Au Micro sur Canal Plus tous les mercredis. Donc ce soir, en deuxième partie de soirée, à 23h15, aux côtés de Laure Boulot et Hervé Matou, deuxième numéro diffusé ce soir. Salut. David.
Très bonne journée à vous.
Merci.
Dans un instant, sur Europe 1, Culture Média continue avec votre invité culture,
en
Jean-Pierre.
Effet, je reçois Inès Reg dans un instant.
À tout de suite.